Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Nous allons faire une première lecture, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. On fera en fait deux lectures. On en fera une dans l'évangile de Jean, une autre dans l'évangile de Matthieu. Et le sujet que j'aimerais aborder, c'est une préoccupation qui est la nôtre en tant que chrétien. Nous y pensons souvent. Le sujet, c'est la question. La question que pose l'indifférence, voire davantage l'incrédulité, le détachement, mais je voudrais réunir ça autour d'un mot, l'indifférence de notre monde, de notre société contemporaine, devant l'appel, devant le message de l'Évangile, où on s'aperçoit que Jésus avait raison de dire « Ne crains pas, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père dans les cieux de vous donner le royaume. » Et quand on s'aperçoit que le monde est ainsi, que les gens sont beaucoup plus enthousiasmés, parce que je prends le mot enthousiasme parce que c'est un mot grec qui veut dire Dieu en soi. Et on s'aperçoit que les gens, ne connaissant pas la signification de ce mot, sont beaucoup plus intéressés par les choses futiles, des choses secondaires, des choses qui quelquefois sont vaines et n'ont aucune valeur, que au souci tout simplement, eh bien, de leur éternité, de leur âme, de leur vie profonde. Et c'est vrai que on se pose la question aujourd'hui, mais Jésus s'est posé la même question, figurez-vous. Alors, je vous ai donné ce texte, hein, dans Jean chapitre 12, versets 37 et 38. Il est dit ceci, « Malgré, par-delà ou en dépit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Selon la parole du prophète Ésaïe, le prophète, qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? » Et nous nous apercevons que c'est vraiment une parole que Jésus a dû dire avec une grande tristesse, de dire « Mais finalement, et il était ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Lui, il est le Messie. Il est le Sauveur et que nous sommes tout simplement, eh bien, ses ambassadeurs de son royaume. Alors nous sommes infiniment moindre que lui, mais lui, il a vécu les choses. Et quand il est arrivé en Israël, il a trouvé véritablement un peuple qui était loin d'être prêt, avec toutes les questions que cela peut susciter, que ça suscite encore aujourd'hui. Mais comment se fait-il que ce monde qui est malheureux, ce monde qui souffre mille morts, et on peut le dire, c'est le mot, hein, qui a des préoccupations, qui est submergé par un océan, par des flots de misère et d'inquiétude, de préoccupation. Comment se fait-il qu'il ne se tourne pas vers Dieu? Le message de l'Évangile, on est convaincu, c'est le nec plus ultra qui n'ait jamais été donné aux hommes de la terre. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'espérance, c'est les certitudes, c'est les assurances. Alors Jésus dira, mais malgré tant de miracles que j'ai pu faire au milieu de mon peuple, eh bien, il ne croit pas en moi. C'est terrible. Alors on va revoir ça d'ici quelques instants. Je vous ai annoncé une deuxième lecture, c'est dans Matthieu, chapitre 11 et verset 20. Alors, on s'est tous posé cette interrogation, mais pourquoi? Alors c'est Jésus qui est présenté, il parle. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, converties, tournées vers lui. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr, dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parole étonnante, hein? Parole étonnante, s'il en est, quand on voit qu'il y a une comparaison entre le peuple de Dieu et puis les pays d'alentour qui sont des pays d'ignorance et des pays païens. Et les choses sont dites. C'est la première fois, vous remarquerez, que le mot malheur est prononcé par Jésus. Alors après, ça viendra dans la suite de l'évangile de Matthieu. Mais pour nous montrer qu'il y a quelque chose certainement d'une grande importance. Imaginons-nous un instant, quelle peut être l'attitude de quelqu'un qui a tout fait, absolument tout fait, qui a tout donné, absolument tout donné, et qui en retour est payé de la plus monstrueuse ingratitude. Davantage encore, d'une totale et parfaite indifférence. Voilà. Nous, dans nos relations humaines, on ne le supporte pas. Quand vous avez fait du bien et que vous avez tout donné et que vous voyez que vous êtes payé de mépris et que voir comme ça a été le cas de Jésus, le seul salaire qu'on lui a donné, c'est de crucifier, de l'évacuer parce qu'il était particulièrement embarrassant. Imaginez-vous, c'est la situation de Jésus. Tout donné, tout fait, tout accompli. Et c'est pour cela que le texte commence de cette manière. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Elles ont été insensibles, elles ont été indifférentes, elles ont été complètement, eh bien là, en abstraction complète, tout simplement. Vous savez que je voudrais dire, et ça nous vaut pour nous, c'est que tout privilège augmente notre responsabilité. Plus nous savons, plus nous connaissons, c'est normal. C'est comme ça que les choses doivent être prises en considération, et dans la société, selon les lois, c'est tout ça. C'est aussi la loi des hommes. Et nous voyons que toute bénédiction peut se transformer en quelque chose qui est son contraire. Eh oui, et c'est dommage, parce que c'est une réalité. Je ne veux pas dire que Dieu fait les choses avec un légalisme, avec, en effet, un petit peu, comment on appelle ça, vous savez, excusez-moi l'expression, je vais être un petit peu trivial, mais entre la carotte et le bâton, c'est pas du tout. Mais c'est le fait de nous-mêmes qui finalement, eh bien, ne réagissons pas, négligence, indifférence, rejet, mépris, tout ce que vous voulez. C'est la question qui est posée. C'est ce que Jésus nous révèle et nous touchons du doigt en quelque sorte la peine que Jésus a. Il pleurera sur Jérusalem, qui a été visitée par des cohortes de prophètes qui lui ont dit « Jérusalem, Jérusalem !» Et Jésus donnera finalement la suite de ce qu'adviendra Jérusalem. Jérusalem, comment pourrait-on dire, l'effronté. C'est comme ça que les anciens prophètes l'appellent. Alors, l'abondance de miracles que Jésus a produits, les miracles les plus éclatants, n'ont jamais créé la foi, ou un mouvement, peut-être, qui pouvait, eh bien, changer le cœur des hommes, le cœur récalcitrant des hommes. Certains s'en sont bien moqués, hein. Ils ont tourné en dérision. Qui était Jésus? Ce que Jésus disait? Ce que Jésus faisait? Alors, il lui suffit tout simplement, si peu, pour que l'extraordinaire qui était descendu sur terre, où la terre a été frappée, finalement, des bénédictions de Dieu, produise son effet. C'est-à-dire, à commencer par une prise de conscience, une componction, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire un retour sur soi-même, ou la repentance, ou tout simplement une réflexion profonde en disant « Mais d'où cela vient-il ? Comment cela ?» Alors les « comment », on s'en est posé naturellement. Se repentir, mais Jésus, et je voudrais le dire parce que ça préside à toute l'histoire de la création, c'est que Jésus n'a jamais forcé personne à se repentir. Alors, entre parenthèses, c'est pas à nous de nous occuper de cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ne forçons jamais personne à se repentir, parce que si nous voulons forcer les gens à se repentir, ils ne se repentiront jamais. Attention, hein, on a fait du travail qui n'était pas toujours positif. Priez donc le Seigneur, il est plus grand que nous, et c'est lui qui va attirer les âmes. Et il les tirera, comme on l'a dit la dernière fois, avec des liens d'amour et des cornages d'humanité. Mieux que nous saurions le faire. Alors notre liberté peut être notre plus grand péril. On peut le dire de cette manière. C'est vrai que la liberté comporte des grands risques. Et que pourrions-nous ajouter? Lorsque nous avons reçu de Dieu et que nous oublions le divin donateur, parce que c'est pas les dons qui ont le plus important, c'est celui qui donne. Et il devrait rester toujours à la première place. Et beaucoup de gens ont fréquenté les milieux de l'évangile, ont entendu l'évangile, ont reçu. Des gens ont été merveilleusement guéris, délivrés, ils ont vu leur situation changer du jour au lendemain, mais ils ont gardé qu'un tout petit souvenir, finalement, de celui qui avait donné, le donateur, pour l'oublier ensuite. C'est bien dommage. Parce que là, on rate tout à fait le but. Il y a quelqu'un qui a dit cela, c'est un poète du 18e siècle, il a dit « L'indifférence, c'est le sommeil de l'âme. » Moi, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je trouve ça beau. Bon. Je trouve ça beau. Non, mais j'essaie de vous détendre un petit peu quand même. Le sommeil de l'âme. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en sommeil dans notre monde, naturellement. Jésus fait de sévères reproches aux villes. Donc, c'est pas aux villes en elles-mêmes, c'est aux habitants. Ce sont les gens qui habitent ces villes. Qui ont bénéficié des bontés de Dieu sans qu'aucun changement moral ne se soit opéré. Et on pourrait dire que s'il y avait un titre à donner à notre message de ce matin, c'est comme ça que je l'ai appelé d'ailleurs, « Délit d'indifférence ». Vous savez que le délit, c'est un terme juridique, hein, et quand il y a un délit, il y a naturellement quelque chose qui vient derrière. Mais là, c'est un délit d'indifférence. Remarquez, c'est un petit peu ce que la loi prévoit parmi les hommes, hein, quand il est question de non-assistance à personne en danger. Délit d'indifférence. Mais on l'a vu déjà dans la Bible, quand Jésus nous raconte l'histoire du bon samaritain et puis des scribes. Ils sont passés outre. Le premier passa outre. J'ai autre chose à faire. Le deuxième, qui était un scribe, il passa outre. N'est-il que ce pauvre samaritain qui s'est arrêté pour donner témoignage de la miséricorde de Dieu, parce qu'il l'avait au fond du cœur. Auparavant, Jésus avait comparé sa génération, dans les textes, à des enfants boudeurs qui ont refusé de jouer le jeu. Vous savez, nous vous avons joué de la flûte, on a parlé de ça il y a à peu près un an. Hein, nous vous avons joué de la flûte, nous avons dansé, mais finalement, eh bien, à la musique, vous n'avez éprouvé aucune joie, et puis dans la peine, parce que nous avons chanté des complaintes, eh bien, vous n'avez éprouvé aucun sentiment, aucune émotion, rien du tout. Pour parler du peuple d'Israël, Et nous avons constaté que pourtant l'évangile leur a été présenté aux Juifs, comme il est présenté encore aux hommes d'aujourd'hui, sous différentes formes, déclinées en fonction des personnalités, en fonction des régions, en fonction des cultures, en fonction des ministères, en fonction de toutes sortes de choses. Et ils se sont unanimement refusés à participer. Nous ne jouerons pas, nous ne participerons pas au jeu. Le royaume de Dieu était présenté comme un jeu, en quelque sorte, hein, avec tout le respect que nous devons avoir, mais personne n'a bougé. Et aujourd'hui, quand vous présentez l'évangile, personne ne bouge. Alors, c'est quand même dommage, parce que Dieu avait préparé quand même deux personnages d'une grande capacité de rassembler et de convaincre. Le premier, il s'appelle Jean-Baptiste, et lui, il avait un ministère exprimé par l'austérité, par une forme de règle, par des choses qui étaient très sentencieuses. Et puis, il y avait Jésus qui était présenté dans la joie, dans le bonheur de rentrer dans le royaume de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'a pu satisfaire, finalement, eh bien, à l'attente des Juifs, parce que ça ne les intéressait pas du tout. Il n'y a qu'une chose qui les intéressait, c'était la tradition, c'était le ritualisme, c'était tout simplement eh bien leur vieille mécanique qui fonctionnait depuis des siècles et des siècles, et puis, vous savez, l'inconnu, hein, ça fait toujours peur. Oh, il se dit, qu'est-ce que c'est que cet homme qui s'appelle Jésus? Il va tout bouleverser, il va casser la baraque, il va là mettre la clientèle dehors. Ah ben, c'est ce qu'il a fait. Hein. Eh ouais, parce qu'on ne vit pas de religion. On vit de la vie de l'esprit, une vie dynamique de la vie de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Alors, toutes les propositions possibles ont été dédaigneusement, et je souligne cet adverbe, dédaigneusement repoussées, et que d'occasions ratées. Il nous est rappelé, Matthieu dit, là où avait eu lieu la plupart de ces miracles. Jésus a confirmé le royaume de Dieu, sa prédication, par des faits miraculeux. Il n'est pas venu leur dire seulement des choses, mais ce qu'il a dit, il l'a fait. L'aveugle voit, le boiteux marche, le sourd entend, le mort ressuscite, l'eau changée en vin, la tempête qui est calmée, ce sont des faits miraculeux. Ça vous met dans une situation où vous êtes forcément obligé de vous poser des questions. Comment cela peut-il se faire? D'où viennent ces choses miraculeuses? Et c'était susceptible de les faire réfléchir, même les plus réfractaires et les plus endurcis, ceux auxquels, finalement, ils s'adressaient peut-être les plus réceptifs, c'est ceux qui étaient malades et qui l'a guéri, ceux qui l'a délivré. Tous les signes extraordinaires, les prodiges et tout cela, ça c'était des choses. Alors malgré ces dons surnaturels, frappant dans le sens de bénédiction, frappant autant les corps infirmes et meurtris que les consciences, le résultat logique escompté n'a pas eu lieu. Imaginez-vous si tout le monde avait cru à l'évangile, si Israël avait cru à l'évangile, et que tous les juifs étaient partis comme au moment de la Pentecôte, évangéliser le monde entier, mais qu'est-ce que serait le monde aujourd'hui? Eh bien, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est tout à fait le contraire. Hélas, un monde où le royaume de Dieu pousse. Ah, il pousse pas au regard des hommes, mais il pousse quand même. Il pousse quand même, mais il est très discret, silencieux. Malgré ses dons surnaturels, en effet, malgré tout ce que Jésus a pu prodiguer de grâce et ouvert ses mains pour bénir au nom de Dieu, personne n'a réagi en tous les cas, parce que la finalité, c'était la repentance. Et ça, c'est le but de Dieu, que les hommes arrivent à la repentance. Bien guéri, bien béni, bien ceci, cela et ça, mais le but, ce n'est pas des choses uniquement essentiellement terrestres. Quand un homme qui est malade recouvre la santé, c'est formidable. Mais ce que Dieu a en vue, c'est pas seulement la guérison de son corps, c'est aussi la guérison de son âme, de sa conscience, de son esprit. Donc nécessité d'une autre guérison, d'une autre thérapie à caractère spirituel, c'est-à-dire la repentance. La conversion, si vous aimez mieux, on prend les mots indifféremment, mais ça revient à la même. Et le choix qui est proposé, c'est la grâce ou le jugement. Si je choisis la grâce, je suis sauvé. Si je choisis l'indifférence, l'incrédulité, ben voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Et ça, c'est vraiment dramatique, tout simplement. C'est l'interpellation qui est donnée encore à travers tous ces textes. Parce que, pour nous dire que le vrai péché de l'homme, c'est sa passivité coupable. C'est pas qu'il fait des choses. Ah, il en fait, naturellement. Mais c'est sa passivité. Moi, je suis neutre. J'ai un passeport suisse. Je suis neutre. Je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est très bien, c'est une situation qui, comme quand on y regarde bien, excusez-moi pour les Suisses, j'espère qu'il n'y a pas de Suisses au milieu de nous ce matin, mais non, mais c'est parce que c'est légendaire, mais c'est ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on est assis entre deux chaises, surtout nos chaises là, vous avez vu? C'est pas évident, Mais voilà. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans cette situation, assis entre deux chaises, ni à droite ni à gauche. Alors aujourd'hui, on ne sait plus où est la droite et où est la gauche. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que c'est quand même quelque part. Parce que le vrai péché de l'homme, c'est précisément, de se mettre dans une sorte de neutralité et de mépriser tout ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. Parce que, contrairement à ce qu'on a pensé, l'homme n'est pas un animal. C'est un être supérieur. Et Dieu lui a donné une intelligence, il lui a donné une conscience, il lui a donné une réflexion, il lui a donné des mots, une parole, un langage, etc., etc. Ben oui, ça va beaucoup plus loin que peut-être ce que le modernisme de l'évolution nous présente. Parce qu'il a une âme, il a un esprit, il n'a pas seulement qu'un corps. Alors, un homme qui se repent sincèrement est quelqu'un qui n'est plus le même ensuite. C'est ça. C'est ça, quand on parle de l'évolution des animaux, ben là, on a le cas par rapport aux âmes, c'est que lui aussi, il change, il évolue. Il évolue pas dans le monde et dans le physique, il évolue moralement et spirituellement. Il n'est plus le même, naturellement. Et il ne peut plus vivre décemment comme il vivait auparavant. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Il suffit d'un oui. Mais un oui résolu, un oui déterminé. C'est tout simplement les choses ainsi. Il existe des faits tellement impressifs qui surviennent dans l'existence des hommes. Vous savez, nos églises, elles sont souvent composées, elles ont été composées, elles le sont encore, fort heureusement, parce que quand on fait un service de baptême, on entend des témoignages, comme la semaine dernière, extraordinaires. Et je me dis, mais Seigneur, tu es encore à l'œuvre. Quand on entend des témoignages de guérison, j'avais un cancer et maintenant le Seigneur, eh bien, a fait des choses extraordinaires pour moi. Quand on entend des relèvements inespérés, quand on voit par exemple tout simplement des gens qui sont arrachés in extremis à un accident ou autre chose, à la mort, à travers des situations abracadabrantes, de situations sociales, conjugales, familiales, enfin j'en passe et des meilleurs, dont le but de tout ça, le but premier, est de nous amener à reconsidérer la façon de vivre notre chemin que nous poursuivons, que nous avons méconnu jusque-là, mais le Seigneur nous a éclairés. C'est Paul sur le chemin de Damas, une lumière qui arrive. Révélation de la parole, qui est-il Seigneur, je te connais pas. Dieu lui dit, mais écoute, tu me connais pas, tu parles. Voilà. Et là, c'est un bouleversement de vie, c'est quelque chose de formidable. Le mot repentance, parce que c'est le mot qui est utilisé par Jésus, je voudrais l'employer, est employé, il signifie nous mettre face à nous-mêmes. Le miroir nous est renvoyé. Et qu'est-ce que je vois dans le miroir? Est-ce que nous sommes tous passés devant un miroir aujourd'hui, ce matin? Oui. Ça va, c'est bon? Non, parce que mon épouse me dit souvent. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mais toujours est-il qu'on se regarde et après on peut faire la conclusion. Si je me regarde et que, venant de me lever, j'ai les cheveux, vous savez, un petit peu à la 14 juillet, et que je ne fais rien. De toute façon, je vais me faire remettre à l'ordre. Hein, ça, c'est sûr. Mais, par-delà tout cela, je me dis, c'est une remise en ordre, une remise en cause. Et je vais me peigner, je vais me faire bien pour pouvoir venir devant vous. C'est tout à fait normal. Eh bien, la repentance, c'est ça. Je me regarde, je vois, oh là là, il y a des taches partout sur le miroir. Hein. Qu'est-ce que je fais? La première chose que je vais faire, je vais prendre une éponge et puis les effacer. C'est pas moi de les effacer en ce qui concerne mon âme et ma conscience. C'est le Seigneur qui a le chiffon. C'est le Seigneur qui a l'instrument pour effacer tout ça. Mais néanmoins, je vais en prendre conscience. Et je veux dire, mais qu'est-ce que je suis malpropre, qu'est-ce que je suis sale? Alors à ce moment-là, il va y avoir une réaction. C'est ça ce que j'essaie de développer un peu dans notre. C'est une face à nous-mêmes et qui nous met en face de Dieu ou de ce que Dieu nous dit, sans faux fuyant. C'est-à-dire que ça s'appelle faire un bilan, tout simplement. On le fait bien en comptabilité, on le fait bien dans d'autres exploitations. Dieu agit ainsi. Si quelques bienfaits nous sont accordés, ce n'est pas en raison de nos mérites, qui serait, en quelque sorte, si c'était cela, un encouragement à nous complaire. Finalement, puisque je suis bien, finalement, puisque je suis beau et intelligent, je ne change rien. Pourquoi je deviendrais inintelligent et que je deviendrais laid? Comprenez la réflexion? C'est ça la question. C'est que, justement, c'est pas en raison de nos mérites, mais c'est en vertu d'un autre principe. Mais c'est une pure grâce pour nous avertir et nous interpeller. Et c'est ça le sens de la repentance. Si c'est Dieu qui nous passe la main dans le dos en disant « Tu es bien gentil, tu es formidable, ne bouge pas, ne change pas. » Il y en a un qui le dit, c'est l'adversaire. Mais Dieu nous dit « Écoute, voilà, tu peux pas rester comme ça parce que moi je t'aime. Et pour continuer à t'aimer, je ne peux pas continuer dans cette noirceur dans laquelle tu te trouves, ou dans cette ignorance, ou dans cette révolte, parce que ça peut être ça également. Hein. » Mais c'est par pure grâce. Et comme c'est par pure grâce, je n'y suis pour rien. Et c'est là ce qui fait la belle conversion. Quand des gens se convertissent par grâce, ils sont éblouis, ils sont à genoux, ils sont complètement, eh bien, là, émerveillés, nous pourrions dire, en disant, mais comment Dieu peut-il m'aimer à ce point, moi qui suis ce que je suis? C'est l'exemple du centenier qui demande à Jésus de venir dans sa maison pour guérir son serviteur qui est malade. Il vient le chercher. Ou alors il envoie chercher, plutôt dans ma mémoire, il envoie chercher par des serviteurs en disant, bien, que Jésus vienne et puis qu'il impose les mains à mon serviteur qui est à l'extrémité, qui souffre beaucoup, alors qu'il c'est urgent. Et à un moment donné, il va se raviser, le centenier, pendant que ses ambassadeurs sont auprès de Jésus. Il va dire, non, il renvoie encore une autre équipe en disant, qu'il ne vienne pas jusqu'à la maison parce que je ne suis pas digne. Qu'il entre dans ma maison. Ben, ça, c'est l'humilité. C'est les conditions qui font que Dieu est bien béni à ce moment-là. Le verset 21 de notre texte nous dit ceci. Alors, le verset 21. « Malheur à toi, Chorazim, Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la sande. Jésus cite deux villes sur le pourtour du lac de Galilée, lac de Tibériade, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui ont été des villes, des grandes bénéficiaires des miracles Jésus, Chorazim et Bethsaïda. Autant de merveilles venant du ciel qui n'ont pu ébranler l'endurcissement de ces populations, populations juives galiléennes, c'est vrai. Rien n'y a fait. Et pourtant, c'est là où Jésus a commencé son ministère. C'est là où il a donné la primeur de son message à Nazareth, Capernaum, Bethsaïda. C'était vraiment le, on pourrait dire, le terrain, l'habitat de prédilection de Jésus. Et c'est là où il a choisi aussi la plupart de ses disciples. Mais rien n'y a fait. Refus systématique de croire. Quand il prêche dans la synagogue de Nazareth, la primeur de son message, de son message messianique, la récompense que les hommes de Nazareth qui l'avaient vu grandir, qui connaissaient sa famille, qui connaissaient ses parents, c'est de le mettre à la porte de la synagogue pour le précipiter des hauteurs escarpées de leur village. Remerciement. Imaginez-vous. Voilà. Rien à faire. Rien. Refus de croire. Jésus dira que si de tels semblables miracles s'étaient produits ailleurs, par exemple, en pays païen, Tyr et Sidon, ce que c'est cité, l'actuel Liban aujourd'hui, Liban Sud, les populations, je dis bien les populations, bien que païennes, donc ignorantes, se seraient sérieusement remis en cause. Eh oui, Jésus évoque les Juifs d'un côté qui ne veulent pas croire et puis les païens qui sont prêts peut-être. Oui. C'est-à-dire, comme Jésus le dira dans l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris, dont un seul est revenu pour lui dire merci, n'y a-t-il que ces étrangers pour rendre gloire à Dieu ? Combien de fois je me suis posé la question, pendant des années, lorsque nous étions en poste sur Angers, on faisait un marché, on l'a fait pendant des années. Et on y passait toute la matinée, le samedi du matin, on a vu beaucoup de monde, quelquefois on voyait personne, mais on a vu beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Et parmi les gens qui venaient, qui s'arrêtaient, c'était pas les gens de la ville, hein. C'est souvent des gens qui étaient là, étrangers, qui passaient, et qui s'arrêtaient pour acheter une Bible, pour parler avec nous, etc., etc. Vous savez, c'est assez attristant quand vous voyez ça. Nous, on est envoyés pour prêcher l'évangile à Saint-Nazaire ou à Redon. Et puis quand on voit que, quelquefois, c'est les gens qui viennent d'ailleurs, un peu de tous les côtés, n'y a-t-il que ces étrangers, c'est pas péjoratif, hein, mais pour rendre gloire à Dieu. Alors Seigneur, sauve le monde entier, mais passe aussi et souviens-toi de notre pays, qui a tellement besoin, dans son ignorance, dans sa suffisance, et qui se dit, qu'est-ce que l'évangile, on n'en a pas besoin. Terrible, hein, tout cela. Eh oui, c'est terrible tout ça. Chorazin et Bethsaïda, deux vraies villes juives, possédant la juste connaissance, parce que c'était des juifs, de la venue d'un Messie libérateur. Ça, ils le savaient naturellement. Et personne a reconnu ce signe venant de Dieu. Et pourtant, ils avaient les Écritures. Ils allaient à la synagogue, naturellement, les uns et les autres. Et qui a cru à ce qui leur a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et on se dit, vous savez, Jésus a raison quand il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous, notre pays, notre vieille France, que l'on appelle fille aînée de l'Église, bon, je veux bien croire qu'il s'est passé des choses dans le passé, des belles et des moins belles, mais une chose qui est certaine, peut-être la première, mais sera peut-être la dernière. Avec notre rationalisme, avec notre esprit cartésien, avec notre philosophie qui met tout à mal et qui ne laisse aucune place à l'accessibilité de la vie de l'esprit, du message de l'évangile. C'est terrible. C'est ce que Paul a rencontré quand il était à Éphèse. Ah oui, philosophe, hein. Bien, très bien. Mais alors, il faut revenir à la simplicité et de Jésus nous dire, mais je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. On est monté un peu trop haut, nous, chez nous. Excusez-moi, il faudrait peut-être revenir à des choses beaucoup plus simples, essentielles, les choses de la vie. Et le monde serait certainement plus heureux et notre pays serait certainement plus heureux. Alors, que dire aujourd'hui de notre civilisation dite appelée chrétienne? Qui se réclame Oui, qui se réclament de la foi de l'Évangile et se comportent comme si Jésus n'avait jamais paru, comme s'il n'était jamais venu et comme s'il n'avait jamais parlé. Et on dit « Seigneur, Seigneur ». Et Jésus a dit ben, « Seigneur, Seigneur, ne dites pas Seigneur, Seigneur, mais celui qui peut dire Seigneur, Seigneur, il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, tout simplement. Alors de chrétiens, il n'en reste que le nom. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous repassions par une conversion. Notre pays a besoin de repasser par une conversion. Une repentance, une conversion, une vie nouvelle. Et ça changera les choses. Je suis pas trop radical. Vous le dites, hein, parce que j'arrête. Hein. Les conséquences, Jésus l'expose. Verset 22, il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis au jour du jugement... Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que nous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Imaginez-vous un peu. C'est des paroles terribles, hein, cela. Hein. Celui qui a appris et celui qui sait et qui n'a pas retenu devient par cela responsable. Notre monde, donc, dit chrétien, ne peut... prétexté de son ignorance, il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Nous envoyons des missionnaires dans le monde entier, des gens qui ne connaissent rien à rien, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, de l'Évangile, de la Bible, du christianisme, etc. etc. Aujourd'hui, c'est là où se passent les plus grands réveils et les plus grandes conversions et les plus grandes repentances. Où les gens se par milliers, voire même par millions, je pense à la Chine et au Brésil, et bien c'est là où les gens se tournent vers Jésus d'une manière véritable. Alors que nous, on peut toujours dire, ben voilà. Et pourtant, notre monde a été pétri. Notre société française a pour base, finalement, une notion chrétienne. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez pour leur dire croyez en Jésus. Pardon? J'ai pas entendu. La Bible, oh ben la Bible, nous la connaissons. Ah oh ben bien sûr qu'on la connaît. On connaît que la couverture. Alors c'est vrai que, mais remarquez, vous en souriez, mais c'est terrible. Hein. Vous savez, c'est très parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal cette désinvolture, cette indifférence, ce mépris. Fort heureusement, il y a encore dans notre monde, quelles que soient les dénominations qui travaillent, en annonçant un évangile de vie, un Jésus libérateur et un Jésus sauveur, il y a encore quand même des milliers, des centaines de personnes qui se convertissent encore en France. On aimerait tellement plus, mais bon. C'est comme ça. Comme ça. Alors, nous voyons que la conséquence, on l'a lu. Malheur à toi, ceci, cela. Ça nous rend responsables. Notre monde, donc, est un monde de méconnaissance et d'ignorance du message de l'Évangile. Et il suffirait d'une chose. Il suffit tout simplement, en sachant ce que nous savons, les quelques lumières que les gens ont, eh bien, de pouvoir fouiller un petit peu. D'approfondir les lumières que nous avons reçues, et il y aurait nécessairement derrière une remise en cause, c'est-à-dire de dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Paul le dira, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, c'est qu'ils confondent la foi et la croyance. Ils ont une croyance religieuse, mais ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Il y a un autre cas aggravant, c'est le verset 23 que je viens de lire, mais je vais le relire. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'aux césures des morts. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorre, on y reviendra tout à l'heure, Capernaum, c'est une ville que nous connaissons, hein. C'était le poste de commandement ou le PC général de Jésus dans les premiers temps de sa messianité, de son ministère. Oui, c'est Capernaum, très souvent dans l'évangile de Matthieu, il est souvent cité Capernaum, d'où la renommée d'envoyé de Dieu en ce qui concerne Jésus, il l'avait finalement vu, s'est étendue à partir de Capernaum à toute la Palestine, Jérusalem et tout autour. La raison de cette ville qui a une telle importance dans l'histoire biblique et l'histoire évangélique, c'est la multitude des miracles opérés dans ce lieu. Et si vous regardez, beaucoup de guérisons divines. Les habitants de Capernaum ont été les témoins privilégiés de la puissance de Dieu. On peut dire qu'ils ont vu. C'est pas qu'ils ont su, c'est pas qu'ils ont seulement entendu, mais ils ont vu Jésus ici, Jésus là, etc., etc. Ils ont vu. Ce sont des témoins oculaires. Comment se peut-il que cette ville soit restée absolument, eh bien là, comment dire, fermée, hermétique? Comment se peut-il qu'on soit soi-même l'objet d'un exaucement du ciel et l'oublier? Dieu nous a fait grâce, nous n'avons pas oublié les premiers jours où il nous a appelés, il nous a touchés, et nous avons gardé ce souvenir jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, si tu n'étais pas venu dans ma vie, ben peut-être que je serais, non pas seulement ailleurs, mais je serais pas vivant. Pour certains d'entre nous, nous pouvons le dire. La main de Dieu, le doigt de Dieu nous a touchés, ça, c'était quelque chose qui est resté. Comment peut-on oublier des choses comme ça? Comment Capernaum, qui a pu oublier celui qui l'avait visité, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Messie pour Israël? On peut avoir la foi pour obtenir, je répète, on peut avoir la foi pour obtenir des avantages temporels et rester fermé. Beaucoup de gens sont venus à l'imposition des mains, ont été guéris merveilleusement, j'en ai connu, on a prié pour des gens, ici et ailleurs, même parfois dans les maisons, des gens qui nous ont téléphoné en disant « Mais le Seigneur m'a délivré !» On les a vus une fois, ils sont jamais revenus. C'est pas pour nous, mais on aurait aimé, ici ou ailleurs, dans une église ou dans une autre, mais qu'ils restent fidèles à Jésus. Vous savez, il y aurait au moins 10 églises à Saint-Nazaire en 40 ans, là, que l'association était ouverte. Ne vous désespérez pas. Je vous encourage. Mais tel maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors, restons fidèles à ce que Dieu nous a donné et puis ne nous décourageons pas, ne nous démoralisons pas. Alors, c'est vrai qu'on peut vivre tout cela, mais à quoi cela sert-il d'être au bénéfice des plus grands miracles si cela n'éveille pas l'âme à l'envie de nous rapprocher de Jésus, de vivre de ses paroles parce que c'est l'autorité de notre foi et d'avoir cette formidable espérance que nous vivrons avec lui dans sa gloire pour l'éternité dans le ciel. Ça, c'est la belle perspective qui nous est proposée. Je voudrais simplement faire une remarque rapidement. Les choses de la terre sont pour la terre. Et elles passeront, ça c'est l'évidence, même si nous nous bouchons les yeux, ça c'est sûr. Et les réalités encore cachées du ciel sont celles qui vont demeurer. Jésus nous dit, faites-vous un trésor dans le ciel. Et à chacun d'y réfléchir, parce que je voudrais encore affirmer, pour ceux qui seraient encore des douteux ou des douteurs, eh bien que les réalités spirituelles, ça existe, dans un monde tellement matérialiste, dans un monde tellement, qui rejette finalement eh bien tout ce qui dépasse l'horizon humain, tout simplement. Jésus donne l'avertissement aux profanes et aux négligents. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Voilà. Pour avoir repoussé la vie, c'est-à-dire la vraie, ta place sera désormais non seulement dans la médiocrité, dans une vie d'errance qui s'appellera qu'une triste existence, mais également tu passeras à côté de l'essentiel, ce pourquoi Dieu t'a appelé, t'a fait, t'a créé. Parce que Dieu nous a appelés à vivre pour l'éternité et non pas à mourir, tout simplement. Alors Dieu visite tous les hommes sans exception. Est-ce le jour de la visitation aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Vous savez, quand je prépare un message, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Première question qui revient déjà dès le lundi matin. Bon, vous voyez que je m'occupe quand même. Voilà, ça c'est mon petit problème, mais c'est aussi les solutions, elles viennent du Seigneur. Et je me dis, Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire, ceci, cela. Et moi, je ne sais pas toujours ce qu'il faut raconter, mais quand j'ai un message, je le donne quand même. Je me dis, non, je ne sais pas, ceci et cela. Et quelquefois, il y a des choses assez étonnantes, parce qu'il y a des paroles de connaissance à travers les messages. Et il y a des gens qui viennent me voir ou qui me téléphonent en disant, mais tiens, vous avez dit ceci. Est-ce que vous saviez ma situation? Ah ben pas du tout, moi je connais pas. Moi je suis pas un inquisiteur. Mais quelquefois il y a la réponse exacte. Vous avez prié cette semaine et vous avez la réponse peut-être ce matin. Est-ce que Dieu va vous répondre? Il va peut-être répondre à votre indifférence pour te dire maintenant écoute, voilà, à votre négligence ou à votre apathie ou peut-être à une certaine paresse ou peut-être à une superficialité en disant mais bon c'est bien l'abîme mais voilà. Le Seigneur répond à la prière. Est-ce que Dieu nous visite ce matin? pour nous dire, comme Capernaum, Chorazine, Bethsaïda, mais lève-toi, j'ai quelque chose de formidable, et non pas pour nous juger, parce que moi je suis pas un prédicateur de jugement, un prédicateur d'encouragement et d'exhortation, pour nous dire, mais avec toi je pourrais faire autrement certainement, ta vie qui est insipide, ta vie qui se traîne là de droite et de gauche, à ceci ou cela, mais je pourrais en faire quelque chose de fort, où tu vas vivre pleinement et tu me serviras. Que de gâchis quelquefois. Je me dis, il y a des choses, je me dis, mais Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Puis ceux qui sont là, eh ben, ils vieillissent. Hein. À l'attention, à la façon dont nous allons lui répondre, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, Gomorre, et puis à Tyr, à Sidon, et je termine, l'exemple est appliqué à une ville païenne de l'Antiquité qui s'appelle Sodome. On a tous entendu parler Genèse, chapitre 19. Et cette ville a été anéantie à cause de son immoralité. Il s'en passait des choses. Mais je crois que notre 21e siècle n'a pas à envier Sodome. Hein. C'est pas triste hein, aujourd'hui, naturellement. Et Jésus place la responsabilité de Sodome, écoutez bien, Sodome l'impudique, Sodome la violente, Sodome de sang et de feu, il la place tout simplement comme moindre dans sa responsabilité à la Capernaum incrédule. Là on est surpris, hein? Tu te rends compte? Sans hésiter, si Sodome avait eu la chance, passez-moi, hein, si elle avait eu la chance, l'opportunité de voir ce que Capernaum a vu, elle se serait repentie. C'est comme Ninive, dont Jonas, fidèle, s'il en est, serviteur de l'Éternel, au lieu d'aller à droite, il était à gauche, mais le Seigneur lui a dit, tu vas aller quand même de ce côté-là. Et il a prêché l'Évangile contre sa volonté, mais il l'a prêché quand même et les gens se sont convertis. Elle se serait repentie, Sodome et Gomorre. Tout simplement. L'incrédulité est le premier de tous les péchés, mes amis. Je refuse de croire. Je suis nonchalant, je ne veux pas de ces choses. Je refuse de croire, tout simplement. Savoir et ne rien faire. Oui. C'est le choix, c'est le refus volontaire de croire. Parce qu'il y a un petit cœur qui nous dit ceci. Qui veut, peut. Si tu veux, tu pourras. Avec la grâce de Dieu. Pas par toi-même, avec la grâce de Dieu. Pour nous dire en conclusion que l'ignorance peut être pardonnée, c'est l'histoire de Tyr et de Sidon. Et on a eu un bel exemple, c'est que la Cananéenne, femme syro-sénifienne, venait de ces régions et elle venait de Tyr et de Sidon. Et elle est venue vers Jésus et c'est à cette femme-là que Jésus dira « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Boum ! Extraordinaire ça, hein ? Les péchés les plus grossiers obtiennent le pardon. C'est le cas de Sodome. Jésus nous en parle. Mais le refus de reconnaître la vérité confirmée, vue, su, connue, par des faits probants, est d'autant plus coupable. Et c'est pourquoi nous avons lu ce texte tout à l'heure. Malgré tant de miracles qu'il avait faits, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, selon la parole du prophète Ésaïe, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru à notre prédication? Eh bien, c'est bien la question que tous les pasteurs se posent. Et vous, les témoins de Jésus-Christ, vous vous posez, mais qui a cru à ce message? C'est le plus beau de tous les messages. C'est extraordinaire. Oui. Et si c'était vrai, comme nous a rappelé Victor dit dimanche dernier, si c'était vrai, eh bien, peut-être qu'il y a des gens qui ont douté de si c'était vrai, cette belle histoire de l'Évangile, cette belle histoire de Jésus. Mais moi, je suis d'accord avec notre frère. À la fin, il a terminé. En tous les cas, si c'était vrai, ben moi, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Et il n'y a rien d'autre. Alors, on termine. Il y avait dans ces villes, cités de Capernaum, Bethsaïda et puis l'autre, beaucoup d'orgueil à s'abaisser, parce que le problème, c'est une question d'orgueil. À reconnaître en Jésus le Sauveur promis, l'orgueil nous amène toujours à des préjugés. Quand on se croit intelligent, excusez-moi, et qu'on est bouffi d'orgueil, eh bien, on ne l'est pas intelligent, et ça nous amène à avoir des préjugés. Les préjugés, c'est de la fausseté. Et il y a beaucoup de préjugés dans l'histoire humaine, et beaucoup de préjugés religieux aussi, et encore des préjugés spirituels. Et ça s'appelle, il y a une racine, c'est l'orgueil. Et le Seigneur veut déraciner l'orgueil de nos cœurs. L'orgueil. Terrible parole de Jésus pour quiconque préfère l'erreur au mal et le mal à la vérité révélée. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, dans une autre histoire de l'évangile de Luc, il dira aux Juifs. Car si vous ne croyez pas que qui je suis, vous mourrez dans vos fautes. Il n'y a pas d'équivoque, c'est Jésus qui sauve. Chemin, vérité, vie, nul ne va au Père que par lui. Croire, c'est l'essentiel. Être incrédule, c'est demeurer dans la mort. Demeurer dans notre misère. Dans Luc chapitre 10, verset 6, il est dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » J'ai l'habitude de dire que ce qui est important dans une réunion comme celle-ci, ce n'est pas le messager. Hein. Vous vous trompez si vous mettez votre confiance en moi. Et c'est le message. Et le message, eh bien, il annonce quelqu'un, il annonce Jésus. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez Dieu. C'est clair. Alors après, est-ce que l'on peut dire que l'on est chrétien? Tout simplement. Chorazim, Bethsaïda, Capernaum ont rejeté Jésus, non pour ce qu'il faisait, je le précise, parce qu'à un moment donné, il nous est dit que le monde entier, enfin les gens de le monde entier de Palestine, les Juifs venaient en grand nombre, et ils venaient voir ce que Jésus faisait. Hein, je crois que c'est dans le chapitre 3 ou chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus dira, parce qu'il connaissait le fond des hommes, il disait, mais si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Donc, il venait en nombre pour voir l'illusionniste Jésus, il venait voir le faiseur de miracles, il venait voir le Superman qui s'appelait Jésus. Alors, ils n'ont pas rejeté ce qu'il faisait, mais ils ont rejeté ce qu'il était. Et le gros problème dans notre société aujourd'hui, on veut bien entendre parler de religion, on veut bien entendre parler de JMJ et tout ce que vous voudrez, etc., etc. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Mais accepter Jésus, c'est une autre affaire. Pour ce qu'il est. Parce que Jésus est Dieu. Parce que Jésus est l'envoyé de Dieu. Parce que Jésus est le Messie pour les Juifs. Il est le Sauveur et le Rédempteur du monde entier. Et ça, ça gêne. Parce que ce n'est pas finalement de dire d'aller au ciel. Le problème, c'est de changer de vie pour aller au ciel. Alors, ça les gênait ce qu'il était. La personne du Christ, dans la vie des hommes, ne serait-elle pas encombrante, embarrassante? C'est pour ça qu'on l'a évacué, on l'a crucifié. Alors nous avons besoin, simplement pour terminer, d'ouvrir les yeux sur ces miracles. C'est vrai. Ouvrir nos cœurs à sa parole, à sa personne et à sa grâce. À sa grâce. Et en finale, écoutez bien, c'est l'épître des Hébreux qui dit ceci, ce sera la dernière parole. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, que nous avons vues, que nous avons reçues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur a été confirmé par tous ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et s'il y avait un frère ou une sœur ou un ami qui nous rejoint, quelles que soient les lumières ou la connaissance que vous pouvez avoir, moi je voudrais vous dire, approchez-vous sans crainte du Seigneur, remettez-lui votre vie. Ouvrez votre cœur, offrez-lui toute votre existence et vous allez constater ce qu'il est capable de faire de formidable et de merveilleux pour chacun et chacune. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Et que tu nous dises que ta parole est la vérité, ça nous suffit. Que Jésus-Christ nous dise qu'il est la vérité, qu'il est le chemin et la vie, ça me suffit pour le croire. Qu'il me dise qu'il est venu pour bénir et non pas pour maudire. Eh bien, moi, je cours, parce que, en effet, je sais que ces paroles sont suivies toujours de conséquences heureuses. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu bénis mes amis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, ceux qui nous rejoignent, ceux qui viennent peut-être pour la première fois, afin que tu leur fasses le plus grand bien. Nous, notre désir, c'est que tu leur fasses le plus grand bien. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, tu leur donnes, Père éternel, l'épreuve, d'une manière concrète, Oui, Seigneur, je t'ai prié et tu m'as exaucé. Et bien qu'il en soit ainsi, tu bénis maintenant ce message. Tu bénis nos consciences, nos cœurs, nos esprits, nos pensées, et tu nous amènes à une réflexion salutaire qui nous met tout simplement, Seigneur, à la place que nous devons être, à laquelle tu nous appelles peut-être depuis longtemps, c'est-à-dire être un enfant de Dieu, sauvé par le sang de Jésus-Christ et devenu un serviteur, c'est-à-dire un disciple, devenu un ambassadeur d'un royaume merveilleux. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.